Donc, autre partie de l'émission, je ne sais pas si on aura le temps de faire une troisième partie, mais qui est déjà 8h, et presque le cas.
Non, il n'y aura pas de troisième, c'est-à-dire qu'après, ce sera fin de l'émission.
Oui. Voilà, donc on était sur l'existence, donc, et parallèlement donc, à toute cette activité, cette débauche d'activité militante quand même, parce qu'il faut gérer une association. Il faut...
Alors, il y a quand même un truc que je trouve intéressant. Enfin, dans l'existence, moi, c'est là où j'ai retrouvé, entre guillemets, ma fierté. Ou en tout cas, je suis sorti de la honte. C'est de marcher dans la rue, c'est d'être. D'avoir réussi à rassembler des trans et qu'on pouvait marcher dans la rue comme dans n'importe quelle manif. On était là et le pire, c'est que les flics n'étaient pas là pour nous taper dessus, mais pour nous permettre de faire cette manif. Et ce jour-là, ça a été pour moi une reconstruction identitaire importante.
La fierté d'être trans.
Je dirais pas la fierté, mais la sortie de la honte. C'est, là, j'ai perdu la honte, ce jour-là. Je me suis dit, ça, c'est un pas. On n'est pas monstrueux, ça a été pour moi...
La haine de soi.
Ouais, la haine de soi, la sortie de ça. Évidemment, ça ne voulait pas dire j'en étais encore arrivé à m'aimer, ça demandait un grand travail en psychothérapie. Quand je dis que les personnes trans qui ont le plus besoin, et les personnes en général qui ont le plus besoin d'aide psychologique, sont celles qui le négligent le plus. Je sais de quoi je parle. Donc on était aux études, c'est ça?
Moi j'ai loupé le début. Hein.
Donc on parlait de l'existence et Tom disait que donc cette fierté d'être de marcher dans la rue, protégée par la police et non pas avec la police en face de soi. Et donc tu fais tes études parallèlement.
Alors, j'ai commencé en 92 des études, c'est-à-dire que comme j'ai ma scolarité qui a été complètement échouée pour entre autres cette question-là, mais pas seulement. J'ai quitté l'école normale en 5e pour faire un CAP de palefrenier soigneur et ensuite j'ai intégré le monde du travail à l'âge de 17 ans et j'ai travaillé sans discontinuer. J'ai fait un reclassement professionnel, j'avais 23 ans après un accident du travail, j'en ai eu plusieurs mais enfin le dernier était assez grave. Et donc c'était ça, ou à un moment donné, le prochain serait peut-être la caisse en sapin. Je me suis dit, je suis quand même pas trop pressé.
Les cadastres, c'est bien, mais pas trop non plus.
Voilà. Et puis surtout, je n'aurais jamais pu être jockey, j'étais trop lourd. Ça aurait été mon rêve, mais il faut être réaliste, trop lourd, trop grand. Surtout trop lourd.
C'est trop grand.
Trop grand, on a encore des gens qui font plus d'1m60 et qui arrivent. Mais bon, plus de 40 kilos pour commencer, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine.
Donc tu fais un reclassement professionnel à l'occasion de cet accident.
Donc je le fais en informatique et, uh-huh. Et ensuite, comme j'ai fait des séances de psychothérapie. Oui. Dans un premier temps, j'avais essayé de changer ce que j'avais dans la tête, sans succès. Et dans un autre temps, ça a été de m'aider à gérer cette transition et d'avancer sur mes problèmes émotionnels qui n'ont rien à voir avec ça, mais. Qui sont emmêlés, on va dire. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un métier qui me plairait. Et comme j'ai su qu'à Paris 8, on pouvait le faire sans bac, j'ai tenté, de reprendre ces études à Paris 8 en passant le concours d'entrée. C'est vrai que s'il avait fallu passer le bac, j'aurais laissé tomber, quoi. J'aurais pas fait.
Et donc, tu intègres Paris 8
En 92. L'année 92-93.
Et donc, tu fais des études de...
Et j'ai fait des études de psychologie.
Donc,
j'ai mis 10 ans pour faire tout ce temps, toutes ces transitions. Au départ, j'avais pas de papier qui était conforme, donc j'avais un acte de notoriété par contre. Et donc mon prénom d'usage était marqué sur ma carte d'identité et j'ai pu obtenir une carte d'étudiant avec seulement ce nom d'usage, ce prénom d'usage. Donc ça m'a permis d'avoir une vie scolaire tout à fait normale et sans problème. Oui, mais...
À ton rythme.
Voilà, à mon rythme, puisque je travaillais en même temps, j'ai perdu mon emploi, j'ai fait un stage de classement, j'ai retrouvé un emploi, enfin tout ça en même temps, ça a pris beaucoup de temps. Et puis surtout, j'ai fait la phalloplastie, entre-temps, aussi, donc ça a pris...
Oui, ça retarde médicalement, voilà. T'as toujours des...
Donc, ça m'a pris 10 ans de faire ces études.
Et la phalloplastie, tu l'as faite à Gand?
Je l'ai fait à Gand, en 2000. Et j'avais mon état civil, j'ai obtenu en 94, donc ça fait un long, et j'ai pas encore fini, parce que là j'entame les démarches pour faire la pose à prothèse érectile, maintenant. 5 ans après.
Après l'opération.
Voilà, qui a nécessité deux retouches, en fait, deux interventions supplémentaires.
Donc tu fais psychologie, tu fais des études de psycho à Paris 8.
Et tu tombes dans le centre Georges Devreux.
Eh oui, j'ai découvert
comment psychiatrie. Comment tu croises, enfin, c'est assez étonnant, en fait.
Comment j'arrive à...
Ouais, comment tu croises,
eh ben, j'ai entendu dire que Françoise Sirouni faisait un groupe de recherche sur les questions trans. Et ça m'a intéressé, évidemment. Donc, j'étais pas encore en maîtrise, j'étais en licence à l'époque, et je suis allé la rencontrer pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Moi, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui travaille là-dessus, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre, parce que j'ai lu tellement d'horreurs que... Je me suis dit, ça, j'espère que ça ne va pas être du collège Chilan ou je ne sais quoi d'autre. Et finalement... Et finalement, non, c'était pas du tout ça. Son approche était très différente. Le courant est passé et j'ai intégré le groupe de recherche, en fait.
En tant que...
Co-chercheur, étudiant stagiaire.
D'accord. Voilà. Et donc, à l'époque, tu étais en licence ?
En licence, fin de licence. C'était le deuxième semestre et... Donc l'année suivante, j'ai fait mon stage.
C'est intéressant que tu nous expliques un peu ce que c'est que l'ethnopsychiatrie.
Alors l'ethnopsychiatrie, c'est les théories en fait mises en place par Georges Devreux, qui était donc un, il me semble, je sais même plus.
Il était psychologue, je crois.
Je suis pas sûr justement, j'ai un doute. Et c'était un enseignant de Toby Nathan. C'est comme ça, je sais par contre. Et il a écrit, Georges Devreux a écrit entre autres Psychothérapie d'un Indien des Plaines, entre autres. Et il a beaucoup travaillé aux États-Unis et s'est rendu compte que la culture avait beaucoup à faire dans la psychothérapie et dans la façon de voir la pathologie. Et Toby Nathan, lui, ce qu'il a inventé, c'est le dispositif clinique, la façon de travailler en groupe. Et on voit que par exemple, son travail sur les migrants. Quand ils arrivent en France avec des pensées de leur culture, on ne peut pas appliquer la psychanalyse, par exemple, pour les décrire. Ça ne marche pas. Ce n'est pas thérapeutique. Et puis, donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille avec un médiateur qui connaît parfaitement la culture locale des patients en question, oui. C'est-à-dire qu'ils connaissent même souvent le village ou la région proche, comment ça fonctionne d'un point de vue culturel là-bas, comment est pensée la maladie, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas de pathologie, etc., etc. Et les consultations se font dans la langue maternelle des patients. Et il y a ensuite, donc le médiateur va transcrire et rendre la pensée ensuite dans la langue, dans le français, mais ça, nous amener la pensée qu'il y a derrière le concept.
Oui, parce qu'en fait, les Blancs se sont rendus compte que les Pulbororo, quand on leur passait un Rorschach, ils étaient forcément psychotiques, donc voilà. Ils n'étaient pas bons les résultats.
Voilà.
Ça, c'est ce qui était assez étonnant dans cette espèce de mythe de la République universelle, c'est que, je veux dire, ce qui est valable pour une culture...
n'est pas valable pour une autre.
C'est-à-dire qu'il est valable pour toutes les cultures. Et c'est intéressant parce que l'ethnopsychiatrie s'intéresse à ces populations, il y a les migrants, il y a certaines sectes.
Il y a eu tout un tas, effectivement.
Il y a les victimes, les bourreaux.
Ouais. Bah, en fait, c'est parce que François Sionis s'est beaucoup intéressé aussi aux victimes de guerre. Oui. Donc tout ce qui est lié à la torture, tout ce qui est lié, en fait, à l'intention humaine. Donc ça peut être aussi des gens qui ont vécu des traumatismes, le traumatisme intentionnel. Hein, donc que ce soit les accidents de voiture, que ce soit les enlèvements, que ce soit les attentats, que ce soit... Donc ça concerne une très large palette. De ce que donne, et en fait on constate que les gens qui ont subi des traumatismes, ils ont aussi une clinique particulière. Mais elle, ce qu'elle a amené, c'était de penser l'intention du bourreau. C'est-à-dire, c'était quoi l'intention du type, ou de la nana d'ailleurs, parce que les bourreaux sont pas forcément des hommes, quand il a fait tel ou tel acte. Et quand on déconstruit la pensée du bourreau, on libère la victime. Et c'était aussi intéressant. Donc,
Et comment se fait-il que François Sironi s'intéresse aux trans ?